Salut à tous, bienvenue dans ce 14e épisode du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de la création de la maquette d'un magazine. Pour ça, je suis aujourd'hui avec David Cadusseau. On est en train de se parler via Skype. Salut David, ça va ?
Salut, bah, très bien, écoutez.
Donc, tu es graphiste indépendant, c'est ça ?
Voilà, moi je suis graphiste donc indépendant et donc je suis le graphiste maquettiste de T-Bass, le magazine du bassin d'Arcachon, gratuit.
Et alors t'as pas mal d'activités qu'on peut retrouver sur Kaduma avec un K.net.
Voilà, parce que en fait je suis au-delà du magazine T-Bass, je suis aussi web designer et graphiste, et donc pour retrouver mes activités sur mon portfolio en ligne à l'adresse www.kaduma.net.
Alors aujourd'hui on va parler effectivement du magazine T-Bass, qui est un magazine sur l'actualité culturelle du bassin d'Arcachon.
Exactement.
Il y a aussi un site web, c'est tbassmag.com.
Tout à fait, voilà. Vous pouvez retrouver les magazines en ligne, en PDF, vous pouvez télécharger.
Au départ, comment est venue l'idée de créer ce magazine T-Bass ?
Alors l'idée est venue de Frédéric Cabas en fait, qui est un Parisien qui est venu s'installer sur le bassin d'Arcachon et qui voulait créer une activité locale. Donc pour cela il a fait une étude des possibilités et du bassin d'Arcachon, de la population, du potentiel qu'il y avait à créer ça. Et donc ça fait un an à peu près. Et moi il m'a contacté en mars pour justement me demander de m'associer avec lui pour la réalisation de ce magazine, en particulier du graphisme et de la maquette.
T-Bass Mag, c'est un magazine gratuit ?
Comme les journaux actuels, 20 minutes, etc. Mais sa particularité, c'est que c'est un magazine d'actualité culturelle et qu'on essaye de faire de qualité, c'est-à-dire vraiment apporter un soin comme si c'était un magazine de la presse payante. Donc l'idée en fait de faire un gratuit, c'était aussi parce qu'on pense que c'est l'avenir de la presse, que dans beaucoup d'autres pays anglo-saxons par exemple, la presse est souvent gratuite ou vraiment très 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 peu chère, car les revenus peuvent être générés par la publicité, et donc on pense s'inscrire dans ce modèle-là.
Il est diffusé comment ?
La distribution se fait dans certains lieux de dépôt, comme les cafés, bars, restaurants, endroits où publics, on va dire, et dans les boîtes aux lettres, surtout, de plus en plus, car c'est un mode de distribution directe qui est vraiment en contact direct avec les gens, les particuliers. Donc un impact plus fort.
Et le modèle économique est basé sur la publicité, c'est ça ?
Voilà, comme je l'ai dit, le modèle économique est basé sur la publicité avec les partenaires dont nous disposons, par exemple Veolia, avec qui nous sommes partenaires, la communauté des communes du bassin d'Arcachon, Crédit Mutuel, donc tout un tas de partenaires qui, en prenant un abonnement d'une ou plusieurs publicités dans notre magazine, participent au coût de fabrication et de distribution.
Alors aujourd'hui, on en est au numéro 2. Le numéro 1, c'était quand ?
Alors le numéro 1, c'était en octobre. En fait, il est sorti le 9 octobre de cette année. Donc, et voilà, c'est un mensuel. Donc, voilà.
Donc c'est tout récent.
Tout à fait, oui, c'est une initiative complètement récente. La société date de cet été, la marque a été déposée également cet été. Donc voilà.
Alors, comment est composée l'équipe de T-Bass ?
Alors, l'équipe est composée de Frédéric Cabas, directeur de la publication, initiateur du projet, qui supervise l'équipe aussi, donc qui est composée aussi de Nicolas, qui est le journaliste, Anne, la photographe, Pierre-Marie, qui est l'illustrateur, et moi-même, donc, qui m'occupe de la maquette et des graphismes.
Et alors, pour créer un numéro, est-ce que tu peux nous dire en gros quelles sont les grandes étapes de la production ?
Donc, tout d'abord, les reportages qui sont effectués par Nicolas et Anne. Donc, ils partent, soit ils font par téléphone, soit ils se déplacent et interviewent les personnes. Car il y a à la fois du reportage et de l'interview. Ensuite, Bon, bien sûr, il y a le choix des articles avant ça, le choix des articles qui vont être faits, qui se fait avec aussi Frédéric. Et donc, une fois que les reportages sont prêts, donc on me fait Frédéric me fait un chemin de fer, que l'on discute, que l'on peaufine.
On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure, du chemin de fer.
Tout à fait, je vous expliquerai après. Et ensuite, moi je commence à recevoir les articles, les photos, on effectue un tri donc sur les photos, on ajuste, moi je commence à créer les maquettes, en même temps j'ajuste les articles s'ils sont trop longs, trop courts ou s'il y a des choses qui vont pas pouvoir s'intégrer. Là c'est la phase un peu où on travaille vraiment à trois quoi, plus à quatre avec l'illustrateur car il va me donner aussi ses illustrations que je vais placer. Une fois que l'intégration est faite, ensuite pour tous les articles, on valide entre nous, on regarde, ensuite on envoie une épreuve à la... comment dire, une sortie PDF à l'imprimeur qui va lui nous rendre un BAT, un bon à tirer, que nous allons valider, et une fois validé, l'impression se réalisera donc en offset donc chez l'imprimeur, puis viendra l'étape de la distribution dans les boîtes aux lettres et dans les lieux de dépôt. Voilà.
Donc on va rentrer dans le détail de certaines de ces phases de production et on va définir notamment pas mal de termes techniques. On peut peut-être commencer tout simplement par qu'est-ce que c'est la maquette d'un magazine ?
Oui, donc la maquette en fait c'est la structure du magazine, c'est l'ossature des différentes pages et ce qui permet en fait de placer l'information, c'est-à-dire les articles et les photos, de manière harmonieuse et dans un style uniforme propre au magazine.
Avant même le premier numéro, tu as travaillé sur une charte graphique. Comment tu as fait précisément ?
Tout à fait. Donc en fait, avant même le premier numéro, le numéro 1, nous avons fait un numéro 0, ce qui se fait habituellement, comme pour les séries, on va dire un pilote, où en fait, moi, ça me permet de placer les différents... éléments graphiques avec du faux texte puisque en fait il n'y a pas besoin d'avoir un vrai article pour faire ça. En fait la charte graphique, on va dire que c'est l'ensemble des codes de couleurs, des polices, du choix de typographie qui vont être réalisés. Et pour vraiment mettre cette charte graphique en application plutôt que la garder comme ça sur un bout de papier, en fait je l'ai mise en application dans ce numéro 0 en faisant des faux textes avec des photos prises au hasard, en me mettant en faisant comme si c'était un vrai numéro avec des faux articles. Et le but c'est que moi ça m'a permis de tester justement ma charte graphique, de tester mes différentes grilles en fait qui vont me permettre de structurer mes pages et de trouver le style de Tibas quoi, qui est un peu particulier, qui a un style à la fois proche des magazines féminins type Cosmo etc. et en même temps des magazines un peu on va dire un peu plus mode comme En Ville ou Citizen K par exemple, même si c'est pour moi des sources d'inspiration uniquement. Mais le but étant de faire une maquette propre et originale à ce magazine.
Alors après le numéro 0, il y a le numéro 1 et après le numéro 2. À chaque fois, ça commence par quelque chose dont tu as donné le nom tout à l'heure, qui est le chemin de fer. Qu'est-ce que c'est le chemin de fer ?
Le chemin de fer, c'est le découpage des différentes rubriques, en fait, par page. Donc ça permet de donner une vue d'ensemble du magazine. C'est un plan schématique où on représente les différentes pages. Et sur chaque page, on met le nom de l'article ou le nom des différentes rubriques, s'il y en a plusieurs. Et donc, ça donne un résumé du magazine, une vue globale, quoi.
Une fois que le magazine est découpé en pages, tu découpes les pages elles-mêmes.
Voilà, donc, je travaille beaucoup en double page puisque les articles sont tous quasiment d'une double page, voire une page et demie, mais en tout cas, ça reste dans le principe de la double page. Et donc, pour découper mes pages de manière harmonieuse et mettre en avant le visuel ou le texte ou certains éléments, je pars tout le temps d'une grille en fait qui va structurer ces pages quoi. Il faut savoir dans Tibas c'est que la part de l'image est assez importante, beaucoup de visuels, beaucoup de photos, car en fait c'est quand même un magazine on va dire de loisirs, enfin c'est un magazine qui doit surtout permettre aux gens de se faire plaisir en le lisant, qui mise beaucoup sur l'image donc. Et donc pour justement trouver le bon rapport entre l'image, le texte et le blanc, qui est un élément tout aussi important que les deux précédents, je travaille à base de gris, quoi.
Et dans ta démarche, tu commences plutôt par l'aspect graphique ou tu pars du contenu ?
C'est une harmonie entre les deux. Je travaille à partir du texte, c'est-à-dire disons qu'il y a eu un ajustement qui s'est fait, c'est-à-dire qu'avec le premier numéro, même le numéro 0, moi j'ai essayé de calibrer en fait un nombre de signes, de caractères disponibles par page, par type de page, et en fait dans chaque page, dans chaque article, il y a un nombre de caractères plus ou moins prédéfini à une centaine près. Donc ça a été le fruit d'un ajustement entre le journaliste et moi-même. Donc on peut dire qu'à la base, c'est vraiment un travail en collaboration. Peut-être que le graphisme est d'abord à la base, moi j'ai dû m'adapter aussi, revoir certaines conceptions de pages en fonction des articles que le journaliste souhaitait mettre, quoi. Il souhaitait un nombre de caractères plus important. Bon, bref, tout ça, c'est de la discussion qui se fait. Et bon, aussi, moi, je m'inspire beaucoup après pour tout ce qui est graphisme. On va parler plus graphisme, image, quoi. Je m'inspire beaucoup des articles et j'essaye de faire à chaque fois quelque chose qui, en termes de graphisme, qui représente vraiment ce qui est dans le texte, quoi. Qui s'inspire vraiment de ce qu'il y a dans le texte.
Donc, pendant cette phase de préparation, tu échanges des contraintes de présentation avec tes collaborateurs ?
Il y a des... toute part de discussion, c'est vrai que comme on est une équipe réduite, on parle beaucoup entre nous et c'est ce qui fait que on arrive à s'accorder facilement. Mais donc, effectivement, il y a des contraintes, des fois, au niveau surtout... C'est principalement au niveau du texte. C'est vrai que moi, par exemple, quand je reçois le texte, je peux le placer d'une manière qui ne va pas correspondre au sens de lecture voulu par le journaliste. Donc, il va me dire tout doit être dans la première page. L'encadré, il faut le mettre à gauche plutôt qu'à droite. Après, ça peut être moi aussi qui peut lui dire voilà. Là ça manque d'intertitres, moi je trouve que c'est trop tassé, ça fait trop bloc de texte, etc. Donc en fait c'est vraiment de la discussion, c'est ça qui est intéressant. Après au niveau photo, la journaliste aussi émet son avis, émet des avis quant au choix des photos, quant à au travail des photos, même si elle me laisse assez libre quant à l'utilisation que j'en fais. Tout ça se fait dans la discussion et c'est plutôt pas mal.
Et sur le plan technique, comment est-ce que tu fais justement pour récupérer les articles, les illustrations, les photos, les publicités ?
Donc pour les articles tout d'abord, c'est le journaliste qui me les envoie en format doc, Word quoi, par mail. Pour les photos, la journaliste envoie tout d'abord une sélection de toutes ces photos en basse résolution qui vont nous permettre de faire un choix, un pré-choix on va dire, en gros des photos qu'on aimerait bien voir. Celles-ci seront ensuite mises en haute résolution sur un sans serveur FTP auquel j'ai accès, donc où je vais venir chercher les photos. Pour les publicités, c'est les clients eux-mêmes qui me les font parvenir en format PDF ou Photoshop. Et pour les illustrations, donc c'est un graphiste qui les fait à la main, donc enfin au crayon, qui les scanne et qui m'envoie le scan brut que moi je vais retravailler ensuite sous Photoshop pour obtenir l'effet qui va s'intégrer dans l'article, soit lui appliquer une couleur particulière, et puis bon, régler les niveaux, etc. quoi.
Pour l'organisation de tous ces fichiers, est-ce que tu as des petits trucs? Est-ce que des fois tu es obligé de convertir un fichier d'un format vers un autre format?
Pas vraiment. C'est vrai que au début il a fallu un peu discuter parce que qu'on se mette d'accord. Mais maintenant je reçois les fichiers directement dans le bon format. Non, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là.
Alors on va attaquer maintenant la phase de réalisation, celle où tu manipules directement les logiciels pour créer un numéro. Quels sont en gros les logiciels que tu utilises?
Donc beaucoup Illustrator pour tout ce qui est graphisme. Bon, moi j'aime beaucoup les graphismes vectoriels donc réalisés sous Illustrator. Donc je me sers beaucoup de ça pour tout ce qui est éléments de graphisme. Photoshop pour tout ce qui est montage photo, retouche, etc. Par exemple sur le numéro 2, sur l'article d'Yves Parlier, j'ai fait un montage de plusieurs photos qui est assez intéressant avec une dominante couleur qui fait qu'au final on dirait que ça ne fait plus qu'une seule photo. Et sinon après je passe directement, une fois que tous mes éléments sont réunis, je les travaille sous InDesign, donc qui est un logiciel de mise en page et qui est avec Quark Express la référence en matière de logiciel pour réaliser des journaux, des magazines, des publications imprimées.
Donc aujourd'hui InDesign c'est le logiciel qui est au cœur de ta création finalement?
Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est celui que j'utilise le plus. Car c'est celui qui, enfin, c'est le cœur de ma maquette. Ma maquette, elle est réalisée sous InDesign. Donc, ensuite, j'intègre mes éléments, mais tout le travail du texte, je le fais avec InDesign, et je travaille même un peu graphiquement avec InDesign sur certains éléments. Donc, c'est vraiment, et puis c'est le logiciel qui me permet d'exporter le magazine que je vais envoyer à l'imprimeur.
Et justement, à propos du travail du texte, au moment où tu l'intègres, quels sont les choix que tu as à faire principalement?
Donc, le texte, la typographie, en fait, ça se décompose en plusieurs choses. D'abord, il y a le choix des polices. Moi, c'est vrai que dès le départ, j'ai un peu inversé. Normalement, on met une police sans sérif pour les titres et une police avec sérif pour le contenu. Moi j'ai inversé, j'ai mis titre avec sérif et le contenu sans sérif en police Abadi.
Alors sérif et sans sérif, c'est avec empattement, sans empattement, c'est-à-dire soit des lettres avec des petits bâtons au bout, soit des lettres sans petits bâtons.
Oui voilà, tout à fait. Des lettres avec des liaisons ou sans liaison en fait, voilà. Les empattements, c'est les liaisons entre les lettres qui permettent à l'œil de lire plus facilement les lettres.
Alors un exemple de police sans sérif, c'est Arial, et un exemple de police sérif, c'est Times New Roman par exemple.
Ou Georgia, ouais, tout à fait. Et moi en fait, c'est vrai que j'ai décidé d'inverser, je trouvais une police sans empattement, mais qui est très lisible je trouve, qui donne un côté un peu mode, un peu... Enfin, disons que c'est la même police que dans le magazine en ville, quoi. Et donc, on va dire qu'elle a fait ses preuves et elle est facile de lecture et agréable, je trouve. Donc après, il y a le travail aussi de de la justification du texte, d'éviter les veuves et orphelines, c'est-à-dire les phrases en début ou en fin de paragraphe, qui est par exemple un mot qui arrive en fin de paragraphe ou un mot en tout début, et essayer d'éviter justement les éléments isolés comme ça. J'ai essayé de faire une justification sans césure, du moins en éliminer un maximum, surtout sur le contenu quoi, du texte.
Donc les césures, c'est quand tu coupes un mot en deux?
Exactement, voilà, tout à fait. Ouais.
C'est quand il y a le début du mot en fin de ligne et la fin du mot en début de ligne.
Voilà, et que en fin de ligne, il y a un petit tiré qui coupe justement le début. Après le début du mot, qui est un petit tiré pour signifier qu'il est lié à celui d'en bas. Mais c'est vrai que esthétiquement, c'est pas très agréable. Donc voilà, moi j'ai fait en sorte d'éliminer ça. Et voilà, après il y a le jeu avec les chapeaux, les entêtes.
Au niveau des illustrations, est-ce que tu as le même type de travail?
Pour le graphisme, en fait, c'est pareil, il y a un soin particulier qui est apporté. Donc moi, j'essaie tout d'abord de travailler avec une association d'éléments vectoriels, c'est-à-dire dans un design des éléments dessinés sous Illustrator qui ont une apparence très lisse et qui fait assez moderne, et des éléments illustratifs que me procure mon ami Pierre-Marie. Donc ils sont des dessins en fait faits à la main, au crayon, à l'aquarelle, à l'encre. Et donc le contraste des deux donne une richesse au graphisme que je trouve intéressante. Aussi il y a le travail par rapport aux photos, c'est vrai que j'essaye d'apporter toujours un travail autour des photos avec des ornements, des choses un peu, des cadres un peu, on va dire pas ordinaires. Donc ça c'est du graphisme. Sinon, oui j'utilise beaucoup des ornements, des choses comme ça qui vont... Enfin des ornements, des petites parties... un peu ornemental ou des éléments comme ça qui vont donner un peu de richesse au graphisme, mais sans trop en abuser, car j'essaye de garder quand même beaucoup ce côté espace blanc qui permet de faire respirer la page. Et ensuite il y a quelque chose auquel je tiens un peu pas mal, en fait je m'en suis inspiré donc d'un magazine. C'est placer des graphismes sous le texte, mais bon, les placer en filigrane de manière à ce que le texte soit parfaitement lisible. Mais ça permet de donner un relief, je trouve, à la page, faire ressortir le texte comme sur un second plan, et de mixer un peu de faire interagir en fait le texte et l'image, de fondre les deux de manière intéressante.
Donc c'est l'ajout d'un arrière-plan.
Voilà, tout à fait, mais d'un arrière-plan localisé, pas sur le fond de page. Le fond de page est toujours blanc, en fait. Enfin, sauf sur une rubrique, par exemple, là où j'ai, sur la petite interview du numéro 2, là j'ai mis un fond de page d'une illustration que j'avais faite, mais c'est exceptionnel. En fait, le magazine garde toujours un fond de page blanc sur lequel vient se superposer des éléments graphiques, des photos et le texte.
En ce qui concerne la mise en page, tu pars évidemment de la grille qui est définie pour la page en question. Est-ce qu'au moment d'intégrer les différents médias, il te reste quand même du travail spécifique à faire?
Bon, après, il y a des ajustements. Non, la grille, en fait, c'est un repère, en fait. C'est-à-dire que la grille, dans la grille, on n'indique pas ici le texte, ici la photo, mais sa structure va nous permettre de placer les choses au bon endroit et dans l'optique qui a été choisie au départ. C'est-à-dire qu'on choisit une optique au départ qui va être une grande photo en haut et un agencement de texte sur trois colonnes en bas, par exemple. C'est un exemple. Donc ça, on va le faire avec les grilles en délimitant, en faisant partir, par exemple, pas rentrer dans les détails, mais les diagonales du coin en bas de l'écran, enfin de la double page vers le milieu et l'extrémité de la suivante. Et ensuite, en traçant une intersection, une ligne en intersection au point de croisement avec le milieu de la page. Enfin bon, il y a tout un tas de choses techniques comme ça qui permettent de créer justement une grille adaptée à l'envie que l'on a au départ, quoi, qu'on a réalisé sur un brouillon. Par exemple, comme l'exemple que je viens de dire, avec une photo en haut, trois colonnes en bas. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, sous InDesign, c'est juste un ensemble de traits, quoi, de traits horizontaux et verticaux qui vont délimiter des sortes de boîtes, quoi. Mais après, bon, quand on place les éléments, il y a toujours un ajustement qui se fait et on réajuste, voire les différents éléments. On ajoute des graphismes. On modifie un peu la taille des colonnes, on n'est pas obligé non plus de coller exactement à la grille. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un repère important et que même si après on va rentrer en décalage, on restera toujours dans un décalage propre, puisque un décalage qui sera proportionnel à la grille précédemment délimitée. Donc c'est une manière d'être en sécurité tout au long de la production du graphisme et de la construction de la maquette.
Est-ce que dans cette phase de réalisation, tu collabores directement avec les autres membres de l'équipe de T-Bass ?
Alors, en fait, j'ai une phase assez solitaire qui va être, moi, l'idée que je me fais de l'article, qu'est-ce que je vois dessus. Là, je vais imaginer, comment le présenter au mieux et quel graphisme y apporter, etc. Ensuite, je commence à intégrer l'article et là c'est vrai que je me rends compte que bon, peut-être l'article est trop long ou l'encadré ne va pas, ou j'ai trop d'encadré ou pas assez. Donc là je vais rentrer en collaboration, commencer à collaborer avec le journaliste. Après, pareil pour les photos, par exemple, je vais avoir des photos, mais pas celles que je veux, ou une qui... Ou alors, il va m'en manquer, ou alors je vais avoir du mal à me décider, donc je vais demander l'avis à la photographe. Donc oui, je vais rentrer très vite en collaboration avec le journaliste et la photographe, enfin, les différents membres de l'équipe. Et ensuite, une fois que l'article est fait, que l'on s'est mis d'accord et que moi j'ai fini de l'intégrer, moi je vais l'exporter en PDF et l'envoyer aux membres de l'équipe pour une validation de leur part. Donc il y a rediscussion et retravail éventuel sur la maquette.
Est-ce que dans cette intégration des différents médias, tu as une méthode de travail personnelle particulière ?
Oui, enfin c'est vrai qu'à force, je commence d'abord en fait par placer le texte. Pour moi, c'est vrai que c'est assez important de voir par rapport. Parce que le texte, en fait, il peut être composé dans. Ce qui change à chaque fois, c'est les encadrés qu'il va avoir, c'est les chapeaux, c'est. Donc, je commence par placer le texte, voir un peu quelle place il occupe. En même temps, ça me permet de bien m'en imprégner, de le relire, de voir qu'est-ce que je vais pouvoir y associer. Et ensuite, je fais alors soit un travail de photo si l'article est plutôt composé de photos, et après un travail sous Illustrator, soit directement un travail sous Illustrator pour créer des éléments graphiques. Enfin, je travaille avec les deux manières simultanées, on va dire, quoi. Illustrator, Photoshop, je passe de l'un à l'autre. Mais je commence d'abord par le texte, effectivement, placer le texte.
On a parlé de différents éléments au niveau texte. Dans un article, on a dit qu'il y avait les titres, qu'il y avait le corps du texte. On a parlé des encadrés. J'imagine que tout le monde voit de quoi il s'agit. Par contre, des choses qui sont peut-être moins connues, c'est les intertitres et le chapeau. Tu peux nous décrire ça ?
Donc le chapeau, en fait, ça intervient souvent au-dessus d'un article comme une sorte de... C'est une accroche visuelle, en fait. C'est une accroche pour que le lecteur, quand il arrive sur la page, il sache directement de quoi on va parler dans l'article, ou alors qu'il soit interpellé par une phrase un peu choquante en liaison avec l'article. Enfin, je peux dire choquante, c'est interpellante pour le lecteur. Et donc c'est un paragraphe assez court. Qui est souvent soit en tête d'article, soit au cœur d'une page, mais mise en avant, soit en gras, soit en couleur, dans un caractère plus gros, chose comme ça, quoi.
Et les intertitres ?
Les intertitres, par contre, là, ça va être entre chaque paragraphe, on va mettre une petite phrase, généralement qu'on va placer en gras, qui va permettre de faire respirer l'article, d'éviter que ça fasse trop pavé de texte imbuvable. Et donc l'intertitre, il va décrire un petit peu de quoi va parler le. C'est pareil, c'est un peu une phrase d'accroche sur la suite de l'article, quoi. Mais avant tout, c'est une respiration dans le texte.
On a parlé d'InDesign, d'Illustrator, de Photoshop. Bon, apparemment, tu travailles quand même principalement dans InDesign pour faire la maquette. Est-ce que tu as rencontré des problèmes particuliers dans son utilisation ?
C'est quasi exclusivement le problème des ressources, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un logiciel très gourmand. Et effectivement, dès que j'utilise InDesign, que j'arrive au bout vers la fin du magazine, j'ai des crashs, on va dire. Enfin, ça m'arrive le soir, le PC il est plié et des crashs de machine. Bon, heureusement, Illustrator récupère la version telle qu'elle était. Juste avant le bug du logiciel, mais c'est vrai que c'est très gourmand comme logiciel. Associé avec Illustrator, c'est vraiment. Ça nécessite beaucoup de RAM, de mémoire vive et je pense au niveau du processeur aussi.
Et alors la phase de publication, elle doit commencer par la préparation des fichiers pour l'imprimeur ?
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, il faut exporter, une fois que le fichier InDesign a été validé par tout le monde, donc il y a la phase d'exportation. Donc, ce qui est pas mal aussi avec InDesign comme sécurité et comme manière de travailler proprement, c'est qu'il permet de. Il y a une fonction qui permet de pré-packager en fait, c'est-à-dire que InDesign va réunir toutes les polices, toutes les informations, toutes les images, tous les liens images qui sont présents sur la maquette et stocker ça dans un dossier. Donc éventuellement, ça peut être pas mal pour l'imprimeur s'il veut avoir directement tous les éléments lui permettant de réaliser la maquette. Mais bon, moi je travaille pas comme. Moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir trouvé un fonctionnement dont je suis assez content, qui est donc et que maintenant qui est généralisé, hein, c'est l'envoi, l'export par PDF. Donc la norme PDF permet de créer un fichier qui incorpore à la fois les polices, les images et les textes et les photos. Permet de en plus uniformiser l'ensemble en CMJN ou dans un format adapté à l'imprimeur, format colorimétrique, format et aussi norme d'impression. Donc moi j'utilise la norme PDFX par exemple, qui est une norme standard qui permet vraiment d'avoir le plus de chances de faire concorder la version qu'on va envoyer du fichier entre n'importe quel imprimeur, n'importe quelle structure, quoi. Ça aplatit les transparences, ça permet vraiment à l'imprimeur d'avoir le fichier et d'avoir le moins de problèmes possible pour l'imprimer ensuite. Donc lui il reçoit le fichier, il va donc tirer ensuite une épreuve. L'épreuve qui va servir de BAT, c'est-à-dire de bon à tirer. Donc le bon à tirer, en fait, c'est le document, en fait, c'est l'impression en fait du magazine, mais en épreuve, c'est-à-dire en une fois, qui permet de vérifier que en fait comment sera la sortie au final. Donc nous on vérifie ça. On voit si ça correspond avec ce qu'on avait fait au départ. Et une fois que ce bon à tirer donc, est validé, on le signe et l'imprimeur va donc tirer les différents exemplaires avec la même qualité que sur le banc à tirer, de la même manière. Et donc, voilà, ensuite, cela nous est expédié.
Ensuite, il y a la diffusion.
Voilà, ensuite, c'est expédié. Donc, Frédéric reçoit les différents colis avec les magazines. Et il s'occupe de la distribution. Donc, il ne s'occupe pas de toute la distribution. Maintenant, en fait, on a opté pour un système, donc, 2/3 distribution en boîte aux lettres et 1/3 distribution dans des dépôts, dans des lieux publics, cafés, bars, restaurants, lieux de spectacle, etc. Enfin, les lieux, les endroits publics. Et donc, les 2/3 en boîte aux lettres sont effectués par une personne, en fait, hein, qui fait ça. Donc, un peu comme la distribution des publicités.
Et il y a aussi la version sur le web.
Et de plus, la version sur le web, oui, qui sort même avant la version papier. Et j'ai placé les PDF en deux formats. Un format assez léger pour pouvoir le télécharger, le voir rapidement. Un format beaucoup plus lourd, donc là, qui est en haute qualité, qui est dans la qualité... La qualité que j'ai envoyée à l'imprimeur, quoi, c'est-à-dire non compressé, et donc là qui permet de voir vraiment si on veut voir les détails, etc., de manière plus propre, voilà. Mais qui est beaucoup plus lourd aussi en termes de poids à télécharger, quoi. Et donc ce site, en fait, là, tibasmac.com, bon, pour l'instant, il nous permet de mettre les magazines en ligne pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de l'avoir en version papier. Mais à terme, en fait, ça va devenir vraiment un complément du magazine papier, c'est-à-dire un magazine online, quoi, qui diffuse vraiment un contenu aussi culturel, mais toujours local, lié au bassin d'Arcachon. Et peut-être même avec l'idée de compléter les articles papier par des reportages vidéo. Alors, on essaye vraiment, de toute façon, avec Tibas, la marque Tibas, de développer une image originale du bassin d'Arcachon qui soit à la fois moderne, jeune, dynamique, tendance, et voilà, essayer de donner un peu une autre image de cette région qui est quand même très apprécié, je pense, par beaucoup de gens en France, quoi.
Pour un magazine payant, on va pouvoir suivre les ventes. Là, pour un magazine gratuit, comment vous faites le suivi ?
Le suivi, en fait, en fait, il n'y a pas vraiment d'outils pour analyser le suivi, savoir quel nombre de personnes l'a lu, etc. Par contre, ce qui est vrai depuis la diffusion en boîte aux lettres, c'est qu'on a des retours vraiment nombreux de gens qui nous appellent pour vraiment dire tout le bien qu'ils pensent de ce magazine. Et donc, ça montre vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Après, bon, c'est vrai que dans les lieux aussi où sont déposés les magazines, suivant la personne qui tient... le gérant ou quoi, c'est vrai qu'on a des retours, voilà, les gens le prennent beaucoup, etc. On voit aussi qu'au niveau des pouvoirs publics de la localité d'Arcachon, par exemple, le magazine est connu, donc ça veut dire qu'il y a eu des retours, donc il commence vraiment à faire parler de lui. Bon, c'est que le deuxième numéro, faut pas non plus s'emballer, quoi, mais déjà c'est quand même assez énorme en deux numéros de s'installer, d'avoir déjà tous ces retours, quoi. Donc, surtout qu'on a commencé à une saison justement octobre qui était pas la saison la plus appropriée, parce que Arcachon, c'est quand même une ville qui vit surtout l'été, qui voit son nombre quasiment doublé avec les touristes. Et donc voilà, mais bon, c'était un choix délibéré de faire vraiment un journal qui soit réservé aux habitants du bassin, qui soit pas quelque chose uniquement pour les touristes ou juste un coup de pub, voilà quoi. Mais vraiment un vrai journal d'actualité culturelle sur le bassin.
Merci beaucoup David.
Ben, merci beaucoup à toi.
Et donc, pour tous ceux qui habitent dans le bassin d'Arcachon, à bientôt pour la version papier. Et puis pour les autres, à bientôt sur tibasmag.com, c'est ça?
Exactement, tibasmag.com.
Salut David, salut à tous.
Salut Nico, au revoir.